Moi c'est André Dumbuji, Mai, au Katanga oriental. J'ai réfuté totalement ces questions.
Moi c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre espace de débat citoyen sur Radio Okapi. Près de deux mois après le lancement de la task force d'assainissement à Kinshasa, quel bilan ? Nous en parlons aujourd'hui avec Dr Silas Mimile Makangu, professeur à l'Université pédagogique nationale, docteur en géopolitique et relations internationales, consultant en leadership et management, entrepreneur, pasteur, conférencier, formateur et auteur de plusieurs ouvrages. Nos numéros de téléphone pour participer à cette émission, chers auditeurs, et partager vos témoignages en ce qui concerne l'intervention de la task force d'assainissement dans votre milieu, le 086 34 12 871, et le 0800 081 32 34 883. Vous pouvez également nous laisser un commentaire sur notre page Facebook Parole aux auditeurs. Patrick Kiasongwa est à la mise en onde de cette émission. Le live sur les réseaux sociaux est assuré par Esther Mamboté et David Moussangou. Nancy Atambo réalise l'émission. Elle est également au standard sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Au micro, Jocelyne Moussa Opondé.
Okapi, Metabendi Yamani.
Kinshasa veut-elle réellement changer de visage depuis le lancement le 8 juin dernier de la task force chargée de l'assainissement et de la salubrité de la capitale? Plusieurs milliers des bâtisseurs de la nation ont été mobilisés dans différentes communes. Nettoyage des espaces publics, assainissement, sensibilisation, mais aussi lutte contre certains comportements qui contribuent à l'insalubrité. Les autorités veulent améliorer le cadre de vie des Kinois, mais au-delà des équipes visibles sur le terrain, une question demeure. Quels sont aujourd'hui les résultats de cette initiative? Dans votre commune, avez-vous constaté une amélioration? Les endroits nettoyés restent-ils propres? Les habitudes changent-elles? Les déchets sont-ils mieux pris en charge? Et surtout, comment faire pour que l'assainissement de Kinshasa ne soit pas une opération ponctuelle, mais un changement durable dans la manière de gérer la ville et d'y vivre? Autre problème qui préoccupe quotidiennement les Kinois, les embouteillages. Peut-on améliorer durablement la circulation sans s'attaquer à la manière dont l'espace urbain est organisé et occupé? C'est les débats que nous ouvrons ces jours. Jeudi, dont parle aux auditeurs, et nous sommes avec Dr Silas Mimile. Je l'ai dit, il est professeur à l'Université pédagogique nationale, docteur en géopolitique, relations internationales, consultant en leadership et management, entrepreneur, pasteur, conférencier, formateur et auteur de plusieurs ouvrages. Dr Mimile, bonjour et bienvenue dans ce studio.
Bonjour madame, merci beaucoup.
Alors, on va y aller. Professeur, vous allez souffrir que, bon, j'alterne de temps en temps, professeur, docteur. Voilà. Alors, près de deux mois après le lancement de la task force d'assainissement, quel bilan faites-vous de cette initiative? Est-ce que, selon vous, Kinshasa est réellement en train de changer?
Merci beaucoup, madame. Je crois qu'il faille d'abord commencer par apprécier l'initiative, cette décision, quoique jugée tardive par certains, parce qu'il faudrait ici relever que Kinshasa a commencé à devenir de plus en plus une ville fantôme, semblable à une poubelle à ciel ouvert. Le chef de l'État est revenu là-dessus lors de son discours devant les deux chambres réunies en congrès. Il en a parlé lors d'une rencontre avec les jeunes au stade Tata Raphaël. Il est revenu là-dessus dans sa dernière conférence de presse. Finalement, une décision a été prise, la mise en place de cette task force. pour pouvoir assainir la ville. Alors, dire à ces jours si le bilan est positif, je crois que ça serait trop vite aller en besogne. Parce que cette décision aux dimensions politiques a besoin de temps pour prouver sa capacité technique à pouvoir rencontrer le véritable problème en termes d'assainissement, pas seulement qu'il ressemble à un coup de balai, parce que le problème ici n'est pas de rendre la ville propre, mais d'aider la ville à rester propre. Faudrait rappeler ici que nous avons rencontré durant ces 20 dernières années plusieurs opérations. Nous avons eu coup de poing, Kine propre, Kine Obonga,
Kinshasa
Obonga, Kine Telema, ainsi de suite. La plupart de ces opérations annoncé avec envergure, avec faste, n'ont malheureusement pas réussi à rendre la ville propre. Et ici, je pense que en tant que scientifique, il faudrait que nous commençons d'abord à nous poser de véritables questions. Qu'est-ce qui fait que la ville soit telle qu'elle est aujourd'hui? Parce qu'elle n'est une fierté pour personne. Il suffit de circuler dans les rues de Kinshasa pour réaliser que Kinshasa est réellement sale. Alors, je m'aurais ici...
Moi, je vous retourne la question, professeur.
Alors, je pense qu'il y a... Les causes sont multiples, mais aussi ces causes se nourrissent mutuellement. C'est-à-dire, le mal, je dirais, est systémique. Le mal est systémique. Il y a tout un système que nous n'avons pas voulu, mais que nous n'avons pas réussi non plus à empêcher, qui fait assez que la ville soit très sale aujourd'hui. Première cause, je pourrais évoquer ici cette explosion démographique. Vous savez, aujourd'hui, avec l'insécurité qui sévit dans la partie orientale de la République, cela a créé un grand mouvement vers la capitale de Kinshasa, la capitale de la République, parce que les gens estiment qu'ici à Kinshasa, ils seraient loin des affres de combat, ils seraient beaucoup plus en paix. Mais aussi, cette explosion démographique à Kinshasa est aussi due au fait que les villes intérieures à la République démocratique du Congo, dans la République démocratique du Congo, tardent à se développer. Donc, le confort, la stabilité, la connexion avec le monde international se vit beaucoup plus à Kinshasa. Ça, c'est la première cause. La deuxième cause que je pourrais ici évoquer, c'est aussi l'absence d'une politique d'aménagement. Il faudrait dire que Kinshasa, en train d'évoluer du point de vue démographique, l'État est presque pris au dépourvu. Cette absence d'une politique d'anticipation fait assez que les gens s'entassent, les gens, puisque il faut reconnaître ici, madame, les déchets dont on parle, les déchets dont il faudrait à la fois se débarrasser et par la suite recycler, sont la suite logique de la vie des hommes dans un environnement donné. Chaque jour, puisque nous devons vivre, nous devons respirer, nous devons manger, nous devons nous échanger, il y a donc lieu que nous puissions produire les déchets. Les déchets sont la suite logique de notre vie en tant qu'humain dans un espace géographique. Et maintenant, l'absence d'une politique en termes de gestion de ces déchets fait à ce que, au finish, nous commençons à cohabiter avec ces déchets qui, en réalité, devraient être évacués, devraient être recyclés, parce qu'aujourd'hui, on parle de l'économie cyclique. Ces déchets ne sont plus que des déchets aujourd'hui. Ces déchets sont considérés comme de la matière première qui pourrait nous servir à beaucoup d'autres choses. Troisième raison qui fait assez que la ville soit aussi sale, c'est cette absence de l'éducation citoyenne. Il n'y a aucune ville qui soit propre au monde parce qu'elle devait être. C'est aussi la contribution, c'est aussi la conscience citoyenne qui amène les uns et les autres à considérer que les rues, que les espaces publics sont en réalité l'extension de leur domicile, l'extension de leur résidence, leur lieu de résidence ou lieu de travail. Ce qui fait que chacun est conscient de son apport, de sa contribution pour garder ses villes propres. L'éducation citoyenne à ce niveau est importante pour faire comprendre aux uns et aux autres que l'accumulation, l'entassement de la saleté est à la base de plusieurs maladies. Et quand les gens tombent malades, ça n'exclut personne, ça n'épargne personne, que l'on soit de l'opposition, que l'on soit de la majorité, que l'on soit de la société civile. Donc, l'assainissement de la ville devait être pensé comme étant une ville une affaire qui nous concerne tous. D'où, il faudrait partir ici, impliquer les églises, impliquer l'école, impliquer l'université, pour avoir une ville, non pas entretenue simplement par les régies qui ont en charge cet assainissement, mais aussi entretenue parce que les citoyens veulent vivre dans un environnement sain, afin de prévoir, de prévenir contre les maladies. Vous savez, en 1800, je prends l'exemple de la France, par exemple, vers les années 1830, l'on s'est rendu compte qu'il y avait plus de 43 000 en deux ans. 43 000 personnes qui étaient mortes suite à l'insalubrité. C'est alors que le roi Napoléon Bonaparte va faire venir un technicien en urbanisme qui était maire d'une ville de la France, en la personne du baron d'Hoffmann, qui est venu, qui en 20 ans a mis en place une politique qui a fait presque refonder. Il a d'abord réussi à repenser et à refondre la ville de Paris. Ce qui signifie que la ville de Paris que nous visitons aujourd'hui a été pensée après les dégâts causés par ces insalubrités qui commençaient à
Mais cohabiter. Est-ce qu'aujourd'hui, à Kinshasa, on arrive quand même à évaluer ces dégâts de l'insalubrité sur la santé physique et même morale, hein,
Parce que cette insalubrité est devenue une question de la santé publique. Nous n'avons pas évalué cela. Voilà pourquoi, même quand nous décidons de nous engager dans la lutte contre cette insalubrité, nous le faisons beaucoup plus avec les matalana, comme dit les Quinois. Nous les faisons beaucoup plus avec faste, pour des raisons quelquefois politiciennes, parce que on veut en faire des actions ponctuelles en lieu et place d'en faire une situation structurelle qui devait être pérennisée. Donc, le fait de ne pas prendre cela en compte fait à ce que les uns et les autres pensent qu'il faudrait balayer une fois, deux fois, et puis bon, voilà, qu'est-ce qui arrive par la suite. Faudrait pas oublier que cette opération n'est pas la première. Mais j'ose croire, au regard de ce que Kinshasa est devenu, si l'on met des moyens à la disposition de cette task force, c'est d'ailleurs ici le lieu de dire, madame, j'aurais souhaité que cette task force ne soit qu'une opération ponctuelle, de manière à ce que le vrai travail doit être fait par des structures appropriées, par des régies appropriées, pour que ça ne soit pas un travail qui ressemble à un coup de balai, mais plutôt à une véritable politique à pérenniser pour garder la ville propre. Ok. Une autre cause qu'il faudrait aussi évoquer ici, madame, c'est la pauvreté. Lorsque vous regardez l'histoire de la ville de Kinshasa, vous allez vous rendre compte, par exemple, que l'occupation anarchique de places publiques qu'on a transformée en marché pirate a eu une certaine ampleur à partir du premier et du deuxième pillage. C'est-à-dire, l'absence de l'emploi a amené les familles quinoises à se déverser dans des commerces de fortune. Donc, procéder à l'assainissement de la ville ne devrait pas seulement consister à balayer la ville, à peindre les grandes artères, à évacuer les sables, mais devrait aussi chercher à s'attaquer aux causes immédiates, proches et même aux causes lointaines. Et parmi les causes lointaines, au-delà de l'absence d'une politique d'aménagement, au-delà d'une politique de transformation, d'évacuation et de transformation des déchets, il y a aussi cette question de la pauvreté. Quatrième raison, et ça je pense que ça serait la plus importante, c'est l'absence de l'autorité de l'État. Les citoyens peuvent faire ce qu'ils veulent, mais l'État devait être suffisamment fort pour être dissuasif, les empêcher de le faire, de peur qu'ils subissent la rigueur de la loi. Mais vous remarquerez, madame, pour la plupart des cas que nous avons évoqués ici, qui ne propre coup de poing, qui ne kobonga, ainsi de suite, on va s'attaquer avec faste, vidéo à l'appui, image à l'appui, on va s'attaquer à désengorger les artères, on va chasser les gens. Mais puisqu'on leur a pas trouvé une alternative
de l'emploi,
mais aussi un espace où ils peuvent vendre, parce que il faudrait ici ne pas faire les choses, il faudrait ici éviter les demi-mesures. Un État doit être à même de voir l'entièreté de son tableau de bord. Éviter d'oublier ou d'évoquer un certain nombre d'éléments qui pourraient ramener les mâles qu'on combat aujourd'hui, les ramener sur terrain. Par exemple, quand nous chassons les gens d'Exactaire, il faudrait évidemment les chasser. Parce qu'il n'est pas normal, quand vous passez sur l'avenue du 24 novembre, sur non loin du marché qu'on appelle Selembaou, vous voyez les femmes vendre à même le sol. Mmh. Vous avez vu à Matadi Kibala combien de décès il y a eu. Vous avez vu à Kintia, à Kitambo, tous ces wewa qui aujourd'hui...
Et cela perturbe la circulation.
Énormément, aussi. Cela perturbe la circulation et nous faisons face à ces problèmes d'embouteillage. Alors, la question n'est pas seulement de chasser. Je pense que pour un État intelligent, pour un État qui se veut efficace, il faudrait trouver l'alternative avant d'amorcer l'action.
Pour résoudre durablement le problème.
Sinon, dans 2 mois, dans 3 mois, ils finiront par revenir.
On va revenir à vous, professeur. Le temps pour nous d'accorder la parole aux auditeurs 086-34-12-871. Je rappelle le numéro de téléphone de cette émission et le 081-32-34-883. Nous avons en ligne Peter Maboudi qui nous appelle de Kinshasa. Il sera suivi de Évariste Kabemba Mbujimayi et Honoré Lobo à Lubumbashi. Peter Maboudi, bonjour, activez votre micro et éteignez votre poste récepteur si vous nous suivez à partir de là. Échangeons au téléphone et désactivez aussi si vous l'avez fait, en tout cas le mode haut-parleur pour permettre une bonne communication et que l'échange se passe dans des bonnes conditions. Bonjour à vous Peter Maboudi.
Bonjour madame, bonjour à l'invité et bonjour à tous les aides à Radio Café.
Okay, Peter,
merci beaucoup madame pour la parole que vous m'avez accordée. Je salue d'abord les pertinentes analyses de monsieur qui est l'invité. Je crois madame que cette opération n'est pas la première comme l'invité l'a bien souligné. Il fallait poser d'abord le diagnostic sur la ville de Kinshasa de manière globale. Quelle est la vision réelle de la ville de Kinshasa? Et aujourd'hui, par rapport à la task force qui a été lancée, comme l'invité l'a si bien dit, que c'est encore pas une opération d'une courte durée, madame, parce qu'il y a eu plusieurs opérations qui n'ont abouti que par des résultats que nous connaissons tous. Et je crois que tout État veut que lui donne sa population. Madame, qui rend la ville sale, c'est la population. En retour, qu'est-ce que cette population donne à l'État pour que la ville soit propre? La task force est lancée, mais d'où viennent les financements, la source des financements? Aucune politique publique ne saurait réussir s'il n'y a pas aussi une politique efficace en matière de finances publiques. Il y a eu des opérations, par exemple, des embouteillages qui ont été lancés. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas d'embouteillage à Kinshasa? Les embouteillages continuent. Aujourd'hui, on vient de lancer cette opération, qui est une opération d'abord coûteuse pour l'État, parce que le gouverneur Daniel Bumba, dès l'entame de son mandat, il a eu aussi à initier ce genre d'activité pour l'assainissement de la ville. Mais ces opérations n'ont pris que deux mois, si je ne m'abuse pas, 2 mois, 3 mois. Faute de moyens, on a eu à suspendre. Mais qu'est-ce qui rassure qu'avec la task force qui est lancée, bien que ce soit les compatriotes issus des services nationaux, que cette opération pourra encore durer et rendre la ville propre telle que nous le souhaitons tous.
Mais je crois que
l'opération devrait être orientée vers une des structures privées. Oui, madame.
Vous estimez que la ville ne dispose pas d'assez de moyens pour maintenir la propreté?
Non, madame, c'est un problème de moyens. Donc, on ne peut jamais atteindre une ville sans moyens. Alors que je sais que madame, En principe, l'assainissement de la ville relève des compétences des communes. Il y a d'ailleurs une taxe qui existe, la taxe d'assainissement, qui relève des compétences de la commune. Est-ce que cette taxe est perçue? On est en train d'assainir. Qui rend la ville sale? Ce sont des citoyens. Est-ce que ces citoyens contribuent pour que la ville soit propre? Non. Donc, je crois qu'il devait y avoir une politique efficace. La création d'ailleurs d'une entreprise publique qui s'occupe de l'assainissement, qui devrait, de manière interne, accompagner cette politique par le paiement des factures liées à l'assainissement. Dans chaque ménage, ceux qui vendent le nom des avenues, comme l'invité l'a dit, il faut une politique, avoir des marchés, par exemple, dans des quartiers. S'il y a des mini-marchés dans les quartiers, il n'y aurait plus de vendeurs sur la chaussée et ceux qui rentrent surtout la chaussée sale. Et donc, dès qu'il y a déjà des marchés communaux créés, là, il y aura moyen de canaliser les déchets ici du marché et les orienter vers une destination déjà identifiée par l'État. Et aussi, surtout la sensibilisation de la population au paiement même de cette taxe d'assainissement. Parce que s'il n'y a pas de moyens, je crois que cette opération n'aura pas la durée. Par rapport à la durée, je ne saurais pas qu'avec le gouvernement que nous avons, on aura tous les moyens possibles pour que l'opération soit efficace et puisse avoir une durée telle que nous le souhaitons, madame.
Merci beaucoup, Peter Maboudi, pour votre intervention. Évariste Kabemba, vous êtes en Boujimaï. Bonjour.
Bonjour, Tantine. Bonjour à l'invité. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup, Tantine, de m'avoir passé la parole. Je suis ravi de vous entendre parler ce matin. C'est quelque chose de bon.
Quelle est votre contribution à votre émission?
Oui, concernant les thèmes du jour, je rends d'abord hommage à l'initiateur de cette bonne idée de créer un service nommé Service National. Aujourd'hui, nous voyons comment la ville de Kinshasa est en train de trouver quand même quelques ampleurs, hein, un environnement vraiment normal. C'est que nous tous, on était en train de penser à ce qui puisse se réaliser. Vous voyez qu'il faut que la capitale de notre pays soit d'abord propre parce que c'est le siège des institutions de la République. Avant certaines provinces, mais il faut débiter par Kinshasa. Je remercie le chef de l'État et le général Kasongo Kabwik pour un travail digne de leur rang. Je remercie nos compatriotes appelés jadis Kuluna, aujourd'hui transformés en bâtisseurs, pour leur amour envers cette nation. Mais ce que je vais demander au chef de l'État de faire encore dorénavant, vous voyez la manière qu'il a procédé de créer un service national, il faut qu'il pense aussi à créer un autre service, à part le service national, qu'on crée encore un service propre pour prendre ces gens-là et les envoyer dans une formation de l'environnement. Si on a peut-être tant des environnementalistes, ça va faire à ce que la ville soit trouve un assainissement propre, les histoires comme ça. Et il faut aussi voler les idées aussi des Européens, leur demander comment vous vous rendez vos pays, vos capitales propres comme ça. À partir du moment où les autorités iront demander cette idée-là, j'ose croire que la capitale de notre pays sera propre dorénavant. Merci beaucoup, madame. C'est ça une petite contribution que j'avais ce matin.
Merci beaucoup, Évariste Kabemba. Nous rejoignons à Lubumbashi, Honoré Lobo. Bonjour. Honoré Lobo, ouvrez votre micro pour prendre la parole. Non, votre micro reste fermé et on retourne ici à Kinshasa avec Monsieur Odon Kiala qui est déjà
Honoré
en ligne.
Bizarre.
Ah, Honoré finalement est là. Bonjour Honoré Lobo.
Bonjour, je salue l'invité au plateau et vous-même madame en question. J'avais une petite contribution concernant les sujets.
Allez-y, on vous écoute.
Oui, les choix faits par le président de choisir le service national pour l'assainissement dans la ville de Kinshasa, c'est un meilleur choix. Mais c'est mieux qu'on laisse cette responsabilité-là à la personne chargée. Pour la bonne réussite, il faut qu'on laisse au général Kasongo seul la responsabilité de l'assainissement de la ville en directe collaboration avec le chef de l'État. Il n'y a pas les affaires, oh, tel ministre va s'associer dans la task force, tel ministère, cela va créer un échec. Si la responsabilité est dans l'unique main, il y a moyen de faire les suivis, il y a moyen de savoir on a fait quoi, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses aussi, nous avons trop de saleté à Kinshasa, c'est compte tenu des mentalités des gens qui vivent là. Les Kinois n'ont pas toujours des mentalités bonnes. Dans quel sens? Vous allez voir même des places où il y a des poubelles publiques. Mmh. Quelqu'un qui a quelque chose à main, il ne jette pas dans la poubelle, il jette par peur. Ce sont des choses qu'ils font par force. Alors, comme les gens du service national ont quand même l'esprit paramilitaire, ça va être une réussite dans le sens que les gens qui feront le contraire de ce qu'ils aiment doivent être civilisés pour trouver une solution. Mmh. Et le gouvernement doit faire l'effort de chercher les poubelles publiques, que les poubelles puissent être partout, presque dans toutes les communes, dans toutes les grandes avenues de la ville, qu'on puisse avoir des poubelles publiques. Parce que les poubelles aussi sont uniquement en ville. Mais dans des communes autres reculées, là, il n'y a pas de poubelles. Alors, quand quelqu'un a les déchets, c'est impossible qu'il garde ça rentré avec à la maison. C'est au moins ça, la petite contribution que j'avais de ma part.
Merci beaucoup, Honoré Lobo. Et on rejoint à Kinshasa, Odon Kiala. Bonjour.
Bonjour, Madame Lajou.
Bonjour, Odon Kiala. Quelle est votre contribution à notre émission?
Bonjour, Madame. Je salue votre plateau. Je salue Thierry qui est avec vous. Et ma petite contribution sur cette belle initiative que moi, j'ai toujours et déjà encouragée et que c'est vraiment une belle initiative. Nous sommes tous très contents du travail que nous sommes en train de voir sur le terrain, de l'assainissement de la ville et même de l'évacuation de marchés pirates qui autrefois empêchaient même la circulation libre de paisibles citoyens. En tout cas, ça c'est une très belle initiative et nous rendons hommage à cet effet au président de la République. Qui a eu cette initiative et puis son collaborateur le général Kasongo Kabwik. Et nous allons encourager cette initiative, mais ce que nous allons déplorer, c'est que si cette initiative s'arrête, parce que généralement dans notre pays nous avons vu ce genre de choses. Autrefois d'ailleurs il y avait l'Union européenne qui organisait le nettoyage de la ville, mais un moment cela a disparu. Et tout ça pourquoi? C'est parce que ceux qui étaient chargé de mettre de la propreté, d'assainir la ville.
Oh, malheureusement, on a perdu Odon Kiala. Est-ce qu'il est encore en ligne? Non, malheureusement. Espérons qu'il va revenir. Au sud Kivu, nous attend Didier Katembera. Bonjour. Didier Katembera, vous êtes en ligne en tout cas. Activez votre micro et prenez la parole si vous nous suivez. Ah, malheureusement, il n'y a plus d'auditeurs en ligne. Un souci technique visiblement. On va tenter de les rappeler. Il y a Patrick Odia qui est quand même là en ligne. On va le prendre. Patrick Odia, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à l'invité également, professeur.
On vous écoute, Patrick Odia.
Oui, merci de m'associer à ce niveau de débat. Bon, je voudrais brièvement dire que saluer la mise en place de la tax force par le président de la République en choisant le général avec toute son équipe également. Cela peut produire des résultats rapides, mais son efficacité ne serait durable que si elle devient un mécanisme de commandement, mais aussi des données et des contrats d'investissement également. Il faut profiter de la mobilisation actuelle pour installer un service ordinaire, professionnel et financièrement traçable. En termes de travail, il y a un travail de, comment on va dire, pas de prévention, mais plus de, un travail curatif. Qu'est-ce que j'ai dit? Un travail de cure ou momentané, c'est ce que je vais dire également. Or, il aurait fallu, par exemple, qu'il y ait un programme bien établi. Est-ce qu'il suffit tout simplement de ramasser et puis aller les jeter? C'est bien beau déjà, mais cela n'est pas une solution durable également. Parce que dans la question, rappelez-vous, comment peut-on pérenniser durablement cette initiative? Moi, je pense qu'il y a des pistes, des solutions qu'il faudrait exploiter. Notamment, par exemple, éviter les risques de chevauchement des compétences entre l'hôtel de ville, mais aussi la commune et certains certaines cellules également qui sont responsables de l'environnement et l'assainissement au niveau de la province, au niveau de la commune. Il faut qu'il y ait des missions spécifiques liées ou dédiées à la taxe force pour qu'on évite ce qu'on essaie de voir actuellement entre guéguerres silencieuses entre les gouverneurs ou les gouvernements provinciaux, mais aussi la taxe force également. Et même d'autre part également, les soi-disant, qu'est-ce que j'ai dit, les FARDC, les policiers qui tentent de ne pas reconnaître la légitimité de cette taxe force sur terrain, Ghislaine. Il y a cette guéguerre également qu'il faudrait également essayer de revoir pour éviter tous les risques également. Ça, c'est le premier aspect pour éviter les risques éventuels. Mais parlant des financements, est-ce qu'il y a une ligne budgétaire dédiée à la taxe Fox? D'où provient cet argent? Pour un légaliste comme moi, j'aurais souhaité que cette action soit inscrite dans le prévision budgétaire également, pour qu'il y ait une traçabilité rigoureuse, surtout également un contrôle de l'utilisation, parce que les 4000 hommes qui ont été déployés vivent, sont nourris, et logés, tout ce qui va avec. Comment peut-on pérenniser également la bonne gouvernance, la traçabilité de l'utilisation de ces fonds? Ça, c'est aussi également un autre défi, lequel peut également faire débat à des discussions également. S'agissant de la collecte, ou je vais dire de l'élimination de tous ces érudits-là, je pense, il faut ramasser les déchets, ce qui est bien, mais cela ne suffit pas, Jocelyne. Même le professeur qui est expert en leadership, il sait bien que les conseils ou les actions préventives sont beaucoup plus efficaces que les actions curatives ou que les actions spontanées. Or, à l'occurrence, nous sommes en train de faire face à des actions spontanées. Ça veut dire pas permanentes. On les fait ponctuelle. Pour aujourd'hui, mais on ne prévoit pas. Pardon?
Conjoncturelles, ponctuelles.
Conjoncturelles, voilà des termes, merci de me les prêter. Donc, ce sont des actions conjoncturel pour besoin de la cause ou pour la cause du besoin. Mais nous aurions souhaité, par exemple, avec les management, les prochains qui espèrent en management et tout ça, il sait que plus les actions sont prévues et traitées dans la prévention sont efficaces que lorsqu'ils sont ou ces actions sont conjoncturelles. Ça, c'est aussi un autre défi. Est-ce que le Parlement qui nous écoute en ces liés pourrait également aligner une ligne budgétaire prochainement pour qu'il y ait toutes ces questions? Moi, je voudrais un peu en savoir. Je laisse la primaire au professeur, peut-être, s'il a toutes les informations, de fournir un peu. Enfin, je voudrais aussi parler des comportements en termes des sanctions. C'est bien pire. La sanction peut décourager, moi, je suis juriste, la sanction peut décourager certains dépôts sauvages, comme on le sait ici à Kinshasa, mais elle ne remplace jamais la prévention. Je l'ai dit tout à l'heure, les mesures observées sur le terrain, où parfois on prend les humains, on les frappe, c'est bien beau, on le dit, qu'il ne faut pas détailler, mais du point de vue éthique, du point de vue leadership, ce n'est pas efficace. D'où ce que le professeur Silas est en train de faire et ce que la radio Capi avec Zissel, avec leur équipe est en train de faire. Ça fait partie de la sensibilisation préventive, mais de l'enseignement aussi et de la formation. Ça éviterait qu'il y ait beaucoup de sanctions punitives qui, à mon humble avis, sont parfois illégales. Donc, d'une part également, il faut trouver un milieu juste entre les sanctions qui sont en train d'être administrées arbitrairement et d'autre part investir plus dans la sensibilisation, dans l'enseignement. Et les pasteurs, heureusement que l'invité est pasteur, je connais un peu personnellement, il connaît que le pasteur devait également être les leaders d'opinion ecclésiastique, devait également être initié dans cette campagne. Ça pouvait également favoriser tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Il ne faudrait pas qu'on refuse de jeter une bouteille par peur d'être puni, mais il faudrait prendre la conscience dans les leadership. C'est ça le professeur, il connaît les leadership. C'est ça, donc de soi je devais être conscient que je ne dois pas jeter, pas parce que je serai puni, mais parce que j'ai contribué d'une façon ou d'une autre également à l'amélioration du pays également. Voilà Merci. Quelques suggestions, mais aussi quelques défis auxquels cette tax force fait face, mais aussi un défi est lancé au Parlement, aux leaders ecclésiastiques, aux scientifiques que vous êtes professeurs, mais Merci. À tout le peuple congolais, y compris moi, même les médias, et mais malheureusement, on n'en parle pas, si ce n'est que la radio Capi. Je m'arrête par ici.
Merci beaucoup, Maître Patrick Odia, pour votre intervention. Docteur Silas, vous pouvez réagir, comment vous réagissez à toutes ces interventions de nos auditeurs.
Merci, madame. Je voudrais ici commencer par apprécier la pertinence des uns et des autres. Je suis davantage éclairé et édifié pour vous comprendre que cette question touche plusieurs Congolais. Et je pense que, comme nous l'avions dit, que cette question relève aussi d'une, permettez la tautologie, d'une question de la santé publique. Mmh. Alors, comme le disait tantôt Maître Patrick Odia, le fouet peut être la preuve d'un échec. Mmh. Quel échec? Celui de l'éducation, celui de la vulgarisation. Il ne faudrait pas que nous retombions dans ce que nous avions déploré hier. Déjà, madame, ici, il faudrait rappeler aux uns et aux autres que lorsqu'il est question d'une task force, parmi les facteurs qui lui sont reconnus de par son existence, c'est qu'il y a une spécificité dans sa mission, mais aussi, il y a un délai en termes de timing. Mais seulement, je ne sais pas combien de temps va fonctionner cette task force, parce qu'une task force est une mesure ponctuelle, conjoncturelle. Mais dans l'entretemps, que devient le rigide assainissement de la Raskine? Qui sont ces animateurs? Dans l'entretemps, pendant que la task force est en train d'exercer pendant un temps les compétences qui leur sont dévolues, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, cette régie? Sont-ils en train d'être équipés? Sont-ils en train d'être, cette régie, ses agents, son personnel, et sont-ils en train d'être équipés, entraînés? Parce que il ne faudrait pas que nous retombions dans ce que nous avons connu avec coup de poing, kin propre, kin kobonga, ainsi de suite. Aujourd'hui, l'ordure n'est plus ce qu'on appelle en lingala foulou ou encore salité. L'ordure, grâce à l'économie cyclique, l'on la qualifie de l'ordure. Mm-hmm. Donc l'ordure est aujourd'hui une matière première. Ça, il faudrait les relever, madame. Je pense que, puisque le travail de la task force est limité dans le temps, il faudrait très vite préparer des structures pérennes, des structures à qui l'on donnera à la fois les moyens financiers, matériels, moraux et même intellectuels, pour ne pas seulement assainir la ville, la rendre propre, mais beaucoup plus l'aider à rester propre. Parce que ce que nous avons vu à Kinshasa, ce que nous sommes en train de connaître à Kinshasa, Kinshasa n'est pas la première ville africaine à côtoyer ces problèmes. Je vous donnerai l'exemple de la de Windhoek en Namibie. Je vous donnerai l'exemple de Durban en Afrique du Sud. Excusez-moi, je citerai même Kigali, ici à côté. Vous avez des villes telles que Séoul. Et le chef-d'œuvre, c'est la ville Singapour, qui était en réalité une poubelle à ciel ouvert. Mais regardez ce que sont devenues ces villes aujourd'hui. Pas parce qu'ils ont réagi de manière ponctuelle ou conjoncturelle, mais parce qu'ils ont pensé, ils se sont étalés dans les 15, les 20 prochaines années. Ce qu'il faudrait ici, c'est de dire quelle ville de Kinshasa à l'horizon, par exemple, 2045-2040. Nous devons éviter, madame, de vouloir à tout prix procéder à des astuces conjoncturelles. Ça nous coûte beaucoup en termes d'argent, mais aussi ça nous coûte beaucoup en termes de crédibilité.
En termes d'argent, justement, il y a Peter Maboudi qui soutenait que la ville ne dispose pas d'assez de moyens, hein, en tout cas avant l'arrivée de la task force, pour maintenir la salubrité. Est-ce que vous partagez son avis?
Évidemment, parce que la ville crée des moyens aussi au moyen des taxes et impôts. Comme ça se passe dans plusieurs villes du monde.
Mais est-ce que cela n'existe pas à Kinshasa?
Bon, ça existe, mais vous savez comment, quelle est notre culture en termes des taxes et d'impôts. À la fois, les citoyens ne veulent pas s'acquitter, mais aussi, ce qui décourage les citoyens, c'est aussi l'absence de la traçabilité de ce que l'on paye. Donc je pense qu'avec une gestion intelligente, transparente, et quand les gens savent voir qu'est-ce qu'on fait de leur argent, madame, les gens aimeraient vivre dans une ville de Kinshasa qui soit aussi propre que d'autres villes du continent africain. Donc ici, je souhaiterais qu'on ait une autorité unique après la task force que l'on définisse. Si ça sera la régie de l'assainissement de la ville de Kinshasa, la Raskin, qu'on lui donne le moyen nécessaire. Qu'on évite ces actions ponctuelles dont on ne connaît pas trop la source de financement.
Mais Raskin existe depuis...
Mais avec quels moyens? Avec quels moyens? Même quand vous regardez ce que font nos vaillants jeunes gens de service national, je les ai vus à Bandal casser des étalages à main nue. Mais ils peuvent même se blesser. Donc vous remarquez que même là, il y a encore une précarité en termes de logistique. Il faudrait des moyens. Alors, je disais une autorité unique, mais cette fois-là décentralisée. C'est aux communes. Chaque commune doit assurer l'assainissement de son espace, de son milieu. Et c'est là en collaboration avec les différents ménages. Et pour que cela aille bien, on peut faire d'une
avec
pierre deux coups.
Avec les chefs de quartier aussi, évidemment, et des rues.
Pour que cela, on peut faire d'une pierre deux coups. À la fois, on veut assainir les villes, mais aussi à la fois, on crée de l'emploi en laissant les PME, par exemple, en disant dans tel quartier, il y a telle structure, petite et moyenne entreprise, qui vient introduire son projet, on va évaluer sa viabilité et on lui donne le moyen nécessaire de pouvoir s'équiper. Et c'est comme ça que ça va se passer, madame. Mais il faudrait aussi que l'on recrée, comme ce qu'on a eu en passant, un centre d'enfouissement technique.
C'est peut-être ce qui manque à Kinshasa, parce que les petites structures, les organisations, il en existe, dans certaines communes, il y a des petites entreprises, en tout cas, qui collectent des déchets,
où est-ce qu'il faut les déverser? Oui. C'est comme ça qu'il faudrait multiplier ces centres d'enfouissement technique, ne fût-ce que par district. Nous avons 4 districts aujourd'hui à Kinshasa. Il y a un centre pour les Founa, il y a un centre pour les Lukunga, il y a un centre pour les Moamba, il y a un centre pour les Tcha.
On y revient, docteur Silas, le temps de prendre la dernière série de questions des auditeurs. On retrouve à nouveau Katembera, qui est au sud de Kivu. Il sera suivi de Félix Moulumba, Dieudonné Mbama, Akisangani et Maître Omar. On a perdu encore une fois Katembera, malheureusement. Félix Moulumba est à Kananga. Bonjour, Félix Moulumba.
Bonjour, Madame Jocelyne Taoukoumbe. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Bonjour, vous le avez la parole, mais soyez bref, parce qu'on tend vers la fin de l'émission, pour laisser la parole aux autres aussi et permettre à l'invité de vous répondre.
Merci beaucoup. Alors, l'invité, professeur Silas Makangou, a parlé d'une autorité unique. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là, mais personnellement, je reste réservé sur les bilans de cette task force d'assainissement pour la ville de Kinshasa. Écoutez, l'initiative peut paraître positive sur les plans symboliques, mais j'ai l'impression qu'elle traite davantage les conséquences plutôt que les causes profondes de l'insalubrité et des embouteillages.
Félix Moulumba, est-ce que vous êtes encore avec nous? Malheureusement, on a perdu Félix. On rejoint Maître Omar. Omar Kigalou, qui est en ligne. Bonjour.
Bonjour à tous.
Bonjour Maître Omar et bienvenue dans Parole aux auditeurs. On vous écoute.
Je salue avant tout Dr Silas, Mimi le Makamou, et le CC, mon mentor, mon maître à penser. J'ai dit mienne toutes ces interventions pertinentes. Et je voudrais, madame, de le liminaire de ma cogitation, rappeler que le rôle de l'État n'est pas celui de se plaindre, mais c'est de garantir l'intérêt général. Quand on dit intérêt général, on fait allusion à l'ordre public, à la salubrité publique, à la santé publique et à l'hygiène publique. Donc moi, je suis gêné lorsque je vois des gens féliciter. Bon, féliciter, ça passe, mais dire qu'un miracle a été créé, c'est le devoir de l'État. Article 50 de la fondamentale, tout Congolais a droit à un environnement sain. Ce n'est pas une option, ce n'est pas un cadeau, c'est un devoir de l'État et qui relève également de la conscience humaine. Pour chuter parce que l'État fait défaut, je voudrais, au-delà des causes que mon mentor, le docteur Silas a révélé, parler aussi de l'absence des sanctions. C'est parmi les causes fondamentales qu'on n'a pas citées. Mmh. Il y a depuis 2018, ça a même été révisé en 2023, la loi sur l'environnement. Cette loi a tout prévu. la répression, la prévention, même des sanctions à l'égard de ceux qui ne respectent pas les normes environnementales. Souvenez-vous, à la Deuxième République, à l'époque de Mobutu, les agents passaient dans nos différentes maisons et ceux qui n'observaient pas les règles environnementales étaient punis. Cette loi qui a été révisée en 2023 a prévu des sanctions énormes pour ceux qui jettent les déchets partout, pour ceux qui gèrent mal leurs déchets. Est-ce qu'on les sanctionne? Aussi longtemps qu'il y a impunité, on aura fait œuvre inutile. Deux, l'absence de la politique de suivi. Nous avons applaudi, nous autres. Certaines terrasses ont été détruites pour que l'ordre public et la paix se retrouvent. Après des jours, ces gens-là ont étalé leurs chaises. Ce sont des mesures cosmétiques. On les fait peut-être pour ces livres au spectacle. Et on ne suit pas. Comment voulez-vous qu'il y ait efficacité de résultats si on ne sait pas suivre ce qu'on a initié? Mais aussi le manque de volonté politique, madame. Je suis contre mon mentor lorsqu'il dit qu'il faut créer un nouveau service. Non. Il en existe plusieurs. Au ministère de l'Environnement, il y a plusieurs départements. ITPR, travaux publics, il y en a plusieurs. Raskin et autres. Il faut plutôt accorder des moyens à ces structures déjà existantes et un peu de minimum de volonté politique. Aujourd'hui, on parle de poubelle. L'histoire enseigne qu'il s'agissait d'un maire. Il s'appelle René Poubelle. Il a initié une activité. Aujourd'hui, nous parlons de poubelle. Avec un minimum de volonté, on peut faire de grandes choses. Et j'ai fini par l'absence de la formation. Mon peuple meurt parce qu'il manque la connaissance. Pour que les Congolais soient conscients, comme l'a dit mon mentor, pour qu'ils participent à l'assainissement, il faut qu'ils soient formés. Combien de Congolais savent qu'un sachet peut faire 500 tonnes dans le sol? Combien savent que lorsqu'on incinère les déchets à même les rues, ça détruit le sol et l'air? Combien savent que lorsqu'une maison près d'une antenne parabolique des télécoms, ça peut rendre les hommes stériles? Combien savent que lorsqu'on dégage, on conduit une voiture qui est mal entretenue, ça peut affecter la santé? Ils ne sont pas formés. Combien de brassicoles déversent des déchets dans les eaux et ça nous donne des maladies de diarrhée? Personne ne suit, personne n'est informé. Lorsqu'on est informé des dégâts environnementaux sur la vie humaine, on sera... Je finis pour dire, madame, il y a deux solutions fondamentales. La première, la responsabilité étatique. Assainir un milieu n'est pas un cadeau qu'on offre à la population. Ce sont droits, tout comme le droit à l'environnement. La deuxième, c'est la conscience humaine. Au-delà de ce que l'État fait, nous devons être conscients que si nos déchets sont mal gérés, la vie humaine ne sera plus possible. J'ai dit, je vous remercie une fois de plus. Mes hommages différents à Dr. Sulas, mon mentor.
Merci beaucoup, Maître Omar, pour votre intervention. Dr. Sulas, votre réaction aux interventions de Félix Moulumba et de Omar Kigalo.
Merci beaucoup, cher compatriote Félix Moulumba et Omar Kigalo, dont je reconnais la rigueur intellectuelle. Ben écoutez, lorsque je parlais de l'autorité unique, c'était par rapport à la task force. Parce qu'une task force, de par son essence, c'est un cocktail de services ponctuels. Donc lorsque je parlais de l'autorité civile unique, et là je reviens même à ce que j'ai dit, à la question qu'a posée Maître Omar, que je resalue, c'est qu'il y a déjà la régie de l'assainissement de Kinshasa. Je ne parlais pas de la création d'une nouvelle structure. Elle existe. Il faudrait plutôt donner à cette régie de moyens. De moyens logistiques, de moyens financiers, mais aussi de moyens humains. Parce que je ne voulais pas aller là quand nous regardons la qualité de ceux qui dirigent cette régie aujourd'hui. L'on se pose la question si réellement l'assainissement nous tient à cœur. Maître Omar l'a tantôt dit ici. Éduquer la population, l'amener à comprendre que la question de l'assainissement est une prévention pour préserver sa vie, mais aussi la vie de ses enfants. Rappelez aux uns et aux autres que la malaria, qui quelque part est alimentée par cette insalubrité, tue plus que les sida, tue plus que les cancers, tue plus que Ebola, madame, tue plus que la Covid, ainsi de suite. Donc, la question de l'insalubrité est une question qui relève de l'ordre de la santé publique. Ça, c'est très important, il faudrait les rappeler. En termes de sanctions, nous l'avons tantôt dit ici. Lorsque l'État ne sait pas prouver, lorsque l'État ne sait pas faire montre de son autorité, eh bien, madame, nous vivrons dans ces chaos auxquels nous sommes exposés aujourd'hui. Mais ces sanctions ne doivent pas seulement être spectaculaires. Déjà ça, moi, je déplore personnellement. Je ne vois pas comment est-ce que devant les autorités de la task force, on peut demander à un monsieur dont on ne connaît pas les bilans de sa santé, de lui faire des pompages. supposons qu'en faisant ces propages, on filme et qu'il tombe. À qui reviendra la faute? Donc, il faudrait éviter tous ces matalanas. Il faudrait éviter tous ces spectacles. La question n'est pas seulement de rendre la ville propre, mais de l'aider à rester propre. Et pour aider la ville à rester propre, il faudrait la mise en place de structures. Puisque ces structures existent déjà.
Il faudra leur,
donner des moyens. Ce que la politique pourrait faire, c'est peut-être de définir, comme je l'ai dit tantôt, une ville saine à Kinshasa à l'horizon 2040-2045. On définit ce qu'il faudrait. On définit qu'est-ce que nous aurons comme source de financement et aller palier par palier pour rendre la ville propre. Parce qu'une ville qui n'a pas été entretenue durant plusieurs décennies, ce n'est pas en 2 mois, ce n'est pas en 3 mois qu'on va la rendre propre. Surtout que cette insalubrité a des sources, a des causes proches, immédiates, mais aussi lointaines.
Alors, on va conclure l'émission avec vous, docteur Silla. Si vous devez conseiller aujourd'hui le responsable de Kinshasa pour vraiment vous résumer tout ce que vous avez dit durant ces 55 minutes, quelles seraient les 3 décisions prioritaires à prendre?
Première décision prioritaire, faire un effort de prendre, de donner les moyens, non pas à la task, mais à la régie ou aux régies qui existaient déjà, de moyens financiers, de moyens logistiques et de moyens humains, de véritables animateurs, des gens qui ont de la compétence en termes d'urbanisation et de l'aménagement, des environnementalistes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en plein 21e siècle, en plein air écologique, on ne parlait pas d'une ville propre si cette ville n'a pas des espaces verts. Deuxième décision qu'il faudrait, c'est de mettre en place une politique éducationnelle en associant les églises, en associant l'école, en associant l'université. Pourquoi? Maître l'a dit que les plastiques peuvent durer jusqu'à 500 ans sous le sol et il nuit à la fertilité du sol. Et la fertilité, qui nuit à la fertilité du sol, nuit à son rendement. Donc, on ne sait pas produire efficacement. Et la troisième décision, ce sont les sanctions. Il faudrait qu'il y ait des sanctions. Pas seulement les sanctions à l'endroit du citoyen qui salisse la ville, mais aussi des sanctions à l'endroit de ceux qui sont censés garder la ville propre et qui ne le font pas à cause du détournement, à cause d'une absence de d'une bonne politique d'aménagement. Je ne peux pas comprendre que lorsque le président de la République s'est plaint à 3 reprises, comme je l'ai dit tantôt, et que le gouvernement provincial, plutôt l'assemblée provinciale, n'ait jamais convoqué le gouverneur de la ville pour lui poser des questions en termes à cause des embouteillages, à cause de l'insalubrité. Il y a comme une sorte de complaisance. Donc s'il y aurait des gens à sanctionner, il ne faudrait pas seulement que les paisibles citoyens soient sanctionnés, mais aussi ceux-là qui ont reçu de l'État les mandats de garder la ville propre et aussi devaient être sanctionnés.
Merci beaucoup docteur Silas Mimile Makangu d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir massivement participé à cette émission. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro de Parole aux auditeurs.